Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Les gens qui naissent font une entrée fracassante. Les gens qui naissent se demandent pourquoi tant de bruit. Les gens qui naissent comprennent immédiatement qu'il n'est pas question de faire marche arrière. Les gens qui naissent ont tout de suite faim, puis ne cessent plus jamais d'avoir faim. Les gens qui naissent ne manquent pas d'air. Les gens qui naissent nous inondent de bonheur. Les gens qui naissent n'ont qu'une vague idée du concept jour-nuit. Les gens qui naissent ont des besoins tout simples. Les gens qui naissent désirent en désordre. Les gens qui naissent ne se doutent encore de rien. Les gens qui naissent sont déjà curieux de toutes les différences. Les gens qui naissent sont des artistes en devenir. Les gens qui naissent ne s'attendent à rien, mais ils sont quand même déçus. Les gens qui naissent connaissent l'amour fou. Les gens qui naissent ont un avenir à inventer. Les gens qui naissent, c'est un livre de Marcella et Marie Poirier, publié à l'excellente maison d'édition Les Venterniers. Et je trouve que c'était un très bon moyen de commencer cette émission, la 55e du nom, on lit quoi nous, voilà, de novembre, c'est bientôt l'hiver. Je suis aujourd'hui accompagné de Madame Véro, bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Et je suis aussi accompagné de Méline, bonjour Méline.
Bonsoir Simon.
C'est toujours un plaisir de te recevoir à ce micro. Eh bien oui, 55e émission, nous ne faisons pas notre âge.
Oui, non.
Mais nous sommes toujours là pour parler de littérature de jeunesse, il y en aura comme d'habitude pour tous les goûts. Du plus jeune au plus âgé, en passant par la bande dessinée, par l'album, par le roman. Et puis il y aura évidemment de la musique aussi, il y aura comme d'habitude une petite sélection musicale qui cette fois-ci sera locale. Parce qu'on va aller, on va s'amuser un petit peu à découvrir des artistes locaux. Et on va commencer tout de suite avec notre première artiste. En fait, j'ai tiré tous ces artistes de la compilation Transistor, qui est un travail qui est fait depuis de nombreuses années par Nicolas Moreau avec Mayenne Culture, tout à fait. Et donc maintenant, depuis quelques temps, il nous fait quelques petites compilations des groupes émergents. Et on va commencer avec Alice H.A. Moi, c'est une compositrice que j'aime beaucoup et qui est une jeune femme seule sur scène, guitare-voix, en anglais. Vous allez voir, c'est doux, c'est calme, c'est brut, c'est direct, c'est magnifique. En plus, le titre de ce morceau a un rapport avec la jeunesse, puis il s'appelle Mathilda. Voilà, allez, on écoute Mathilda.
Try
c'était Mathilda, peut-être une référence à Roald Dahl, on ne sait pas, de Alice H.A. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de la voir en concert, voilà, seule sur scène avec sa guitare, c'est vraiment de très très belles émotions.
Et c'est très belles ondes.
Des artistes à suivre, en tout cas dans les prochaines années. Et ben, comme d'habitude, on va commencer cette émission avec l'actualité.
Rature de la jeunesse.
Ce slogan est toujours aussi magnifique.
Bon mot.
Voilà. La grosse actualité de maintenant,
c'est d'hier.
C'est d'avant-hier ou je ne sais plus, il y a quelques jours, il y a peut-être 3 jours. C'est évidemment l'annonce de la Grande Ourse, de la Grande Ourse, pas l'étoile, mais
pareil.
La Grande Ourse, c'est le nom de la récompense qui est décernée tous les ans par les équipes du Salon de Montreuil. Pour l'œuvre la plus innovante, en fait, dans la littérature pour enfants. Donc, c'est vrai que les derniers lauréats, bah, ce sont que des grands noms, hein, puisque c'était Marc Boutavant, ouais, Lucie Félix, pour les derniers lauréats. Et là, c'est Beatrice Alemagna qui a gagné, enfin, qui a été honorée, en tout cas, par cette récompense. Alors, Beatrice Alemagna, elle a eu déjà
Beatrice, beaucoup... Beatrice,
oui, c'est italien. Alemagna. Italien, ah, et elle a été récompensée déjà dans sa carrière par de nombreux prix français, mais aussi internationaux, les prix Sorcières, le prix Bi, plein de grands prix. Et c'est vrai que là, cette Grande Ourse, ça récompense en fait cette carrière magnifique, carrière qui n'est absolument pas finie, puisque...
Bah non, mais qui a déjà un petit peu d'années derrière elle aussi.
Oui, oui, c'est ça. Les premiers albums, je regardais, je me demande, c'est pas 1996
ou
1997.
C'est avant 2000, ouais.
C'est juste avant 2000, donc ça fait... plus de 25 ans de carrière, voilà. Donc ça commence un petit peu en tout cas, ça a marqué les esprits. Et puis Alemagna, elle a vraiment ce style remarquable tout de suite, avec ses mélanges de pastels, de craie, de crayon papier,
aussi,
de voilà. Et puis c'est même des couleurs, les teintes de couleurs qu'elle utilise. Enfin, c'est à la fois touchant et troublant. Souvent, il y a quelque chose.
Ça dérangeait au départ. J'ai mis du temps à l'adopter. Et après, maintenant, ça y est, moi, je voudrais.
C'est les meilleurs, ça. C'est ce qu'on.
Ah oui, oui, complètement.
Et voilà. Donc on est très content. Et tiens, je vais vous faire écouter un petit son que j'ai pris dans une interview qu'elle donnait, je ne sais plus à qui, excusez-moi pour celui qui a fait cette interview, mais c'est un petit son qui résume bien son travail.
Si je n'ai pas vraiment écrit mon histoire, et même si elle n'est pas écrite parfaitement, c'est-à-dire si je pense qu'il y a des mots qui ne sont pas justes, qui ne me parlent pas, tant que cette histoire-là n'existe pas vraiment, je n'arrive pas à voir les images. Et donc après... J'attaque les dessins et les dessins viennent suggérer et amener encore des mots. Donc après, c'est tout un ensemble qui... Ça devient comme un bloc qui avance compact en portant d'autres choses qui viennent s'ajouter. Donc c'est comme une espèce de boule gigantesque qui est composée de plein de choses et qui naît toujours par le texte. Et les images et les textes après s'en mêlent.
C'est marrant, hein, parce que quand on regarde le travail d'Alemagna, on pense d'abord à l'illustratrice qu'elle est. Et elle renverse, en fait, quand
elle a des histoires, elle a besoin d'histoires.
Ouais, elle a besoin d'histoires qu'elle a écrites ou qu'on lui a écrites, mais en tout cas, il faut que le texte soit parfait pour qu'elle puisse imaginer les images et illustrer. Moi, j'adore quand on rentre comme ça dans l'intérieur de la tête des artistes, parce qu'on découvre des choses comme ça à chaque fois. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité, en fait. Chaque artiste a son... Voilà, en tout cas, on est ravis.
Enfin,
je sais pas vous, mais moi, je suis ravi.
J'étais très content.
Oui. Je trouve que c'était une très belle Grande Ourse. Ouais. J'adore ce nom, la Grande Ourse.
Surtout qu'on va y aller à Montreuil et ça va être magnifique.
Ben voilà, ça va être très très bien. Allez, on enchaîne avec. On va commencer pour les plus jeunes. Et pour les plus jeunes, j'ai choisi un petit objet que je trouve déjà l'objet est magnifique. Alors, le livre s'appelle 7 comptines d'oiselles et d'oiseaux. C'est un petit objet créé et réalisé par Sarah Chevaux. Alors, il faut savoir que ce livre a été réalisé dans le cadre du dispositif Livre pour grandir du Val-de-Marne. Vous savez, c'est des départements qui financent auprès d'artistes des résidences où ils vont travailler sur un ouvrage. Et cet ouvrage, en fait, sera après offert
au bébé
naissant en fait, de l'année. Voilà, tout à fait. Et souvent, ça permet aux illustrateurs et illustratrices en fait, d'aller un petit peu plus loin dans leur travail, de réfléchir à quelque chose vraiment sur la toute petite enfance. Et ça crée souvent des objets qui sont absolument, absolument géniaux. Et bien, cet objet en fait partie vraiment. Je parle vraiment d'objet puisqu'on a un petit coffret qui est tout petit, un peu la taille d'un jeu de cartes, en fait, finalement. Comme si on avait le boîtier du jeu de cartes. Et à l'intérieur, vont se cacher cette petite histoire, cette petite comptine, donc sept petits livres. Et là, moi, j'ai vraiment pensé à Bruno Munari, ou à Komagata.
Voilà, aussi,
C'est les mille et un librés de Munari.
Ou bien le travail sur le papier, les couleurs.
C'est ça. Et c'est donc à chaque fois des petites histoires autour d'oiseaux. Donc ça commence par l'œuf, puis après il y a le poussin, et puis après il y a le coucou. Voilà, donc on va voir l'oiseau grandir et puis évoluer au fur et à mesure. Et ce projet, en lui-même, il est déjà magnifique. Enfin, les petits livres sont super. On sent que les enfants vont adorer les toucher. Et puis, mais le fond aussi est très très bien. Ce sont des petites comptines qu'on peut vraiment réciter avec toute la sonorité, avec tout le jeu sur le son qui va être mené par l'autrice. Et en plus, il y a eu une création musicale qui a été faite autour.
Ah oui.
Et là, on va tenter quelque chose en direct. C'est-à-dire qu'on va lancer le son de la création musicale. Et moi, je vais lire l'une des petites comptines pour voir si ça marche.
C'est une création qu'on peut capter avec un QR code ou quelque chose sur l'objet ou
Je ne sais pas, mais on la trouve sur Internet.
On la trouve, moi, je l'ai trouvée sur Internet. D'accord. Voilà.
Allez, on essaie. Le poussin. Un poussin fait
pio pio pio.
Deux poussins font
pio 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 pio.
Trois poussins font
pio 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 pio.
Quatre poussins font beaucoup de bruit. Mais cinq poussins se poussent si bien que l'un tombe à pic. Oh, du grain. Pic, pic, pic. Six poussins picorent. Et dans la basse-cour, plus de grain, plus de bruit. Sept poussins se sont endormis. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le lire, en tout cas.
Oui, mais ça...
J'adore.
Ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne. Je vous invite, voilà, allez télécharger les créations sonores et vous amuser comme ça à lire les petites comptines. Je pense que ça peut être sympa quand même à faire. Oui. On dirait, voilà. Donc ça s'appelle, comme je rappelle le titre, « Sept comptines d'oiselles et d'oiseaux » de Sarah Chevaux chez Thierry Magnier. Et ça marche aussi juste en livre, hein. je vous rassure. Allez, on va maintenant partir pour les plus grands avec les albums. Et là, je vais laisser les filles se battre l'une contre l'autre. Pour commencer, attention, une espèce de ping-pong de conseils. C'est-à-dire que je vous donne la main à chaque fois à l'une et à l'autre.
D'accord.
Donc, okay. Première qui fait ping, l'autre qui fait pong, voilà. On est parti.
C'est Myline. Encadré.
C'est Myline qui commence avec L'arrosoir de Marie d'Orléans.
C'est parti. Alors, L'arrosoir, ça raconte Nina qui trouve dans un débarras dans la rue un vieil arrosoir. Donc, elle est toute contente de trouver cet arrosoir jaune pétant qui la met très en joie, cet arrosoir. Et dès qu'elle passe le palais de chez elle, elle décide d'arroser sa plante. Mais c'est l'horreur, la plante devient énorme. Et donc, toute l'histoire est comme ça. C'est Nina qui va s'amuser à arroser toute sa maison, qui va donc devenir énorme, énorme, énorme. Et elle aussi va devenir énorme. C'est très, très beau. Il y a un dessin assez vintage. Véro, tu disais tout à l'heure, ça ressemblait
ouais,
à...
Oui, il y a quand même du mimi-cracra au niveau des couleurs.
Et de l'eau. Oui, et c'est un personnage... vraiment très marrant, avec qui on passe un très très bon moment. Ça met beaucoup de magie en fait dans le quotidien. Et tout ce qui lui arrive, en fait, elle le reçoit avec joie. Donc c'est vraiment un album du bonheur, quoi. Mmh. Voilà, ça fait du bien.
Moi, j'adore Marie d'Orléans parce qu'à chaque fois, elle met du loufoque dans du quotidien. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans ses albums quelque chose d'un peu fou qui va arriver. Je vous souvenez, je ne sais pas, je sais plus le titre, mais c'était cet énorme album tout en long où il y avait une course de chevaux.
Oui, épique.
Ah, c'est elle qui avait
ouais, ça. Il y a épique dedans, mais...
Une course épique, peut-être.
Une course épique, oui.
Et c'était absolument génial. Épique. Voilà, une maison aussi où il y avait les choses à tailler. Enfin, bon, c'est toujours un univers un peu fou qui est assez remarquable dans son travail.
Oui. Et du coup, j'ai pas dit, mais c'est Julien Baird au texte.
C'est Julien Baird au texte. Tout et on n'a pas dit l'éditeur non plus.
Et Kaléidoscope.
Voilà. Merci.
C'est chose faite.
Voici le ping. Réponse du pong.
Voilà. Poussière de lune, on reste dans le bonheur et le rêve. Poussière de lune de Katharina Makourova chez Albatros. Vous ne connaissez pas trop. Un tout petit peu. Oui. L'éditeur, je veux dire. Donc, j'ai choisi cet album avant la mort d'Hubert Reeves. Mais je vais en profiter pour le lui offrir pour son voyage, parce que je pense qu'il est... C'est de circonstance, on va dire. Et au lieu de poussière d'étoiles, nous allons rêver avec des poussières de lune. C'est un livre atypique, avec une poésie simple et surprenante, comme un peu, on est un peu dans l'univers de Ponty aussi. On se laisse charmer par ces créatures improbables, ces deux sœurs panières. C'est des sœurs panières, ils ont des paniers sur le dos. Elles s'appellent Nola et Tula. Ils portent sur leur dos, avec beaucoup d'élégance et de grâce, toutes sortes de plantes et de pierres, juste comme ça, pour s'amuser. Et Nola a un rêve fou, c'est porter la lune, la plus belle pierre du monde. Alors, elles vont essayer diverses techniques pour atteindre l'astre lunaire, toutes plus poétiques les unes que les autres, jusqu'à ce qu'elles réussissent, mais hélas, elles sont anéanties par l'immensité de la lune. Ça rentre pas dans le panier. Donc les couleurs et les rondeurs des illustrations de Katharina Makourova nous transportent tout en douceur, car nous sommes toujours en quête et en mouvement avec Nola et Tula. On n'arrête jamais, on va vers la lune, quoi, tout le temps. Nous prenons un bain de nuages et toute la sensualité que l'on imagine chez les nuages est au rendez-vous. On nage dans du chamallow, mais là, ça reste de la poésie quand même. Voilà.
Super, merci Véro. Alors, Méline, qu'avez-vous à répondre à ça?
Je réponds... j'ai adoré Pierre et la forêt chez Glénat. Ça partait très bien parce que c'est vraiment le combo gagnant. C'est un livre écrit par Jaume Cabré, qui est un auteur espagnol très reconnu, qui a écrit Confiteor, tout ça. C'est très très bien. Et dessiné par Julia Sarda, que moi j'adore, qui a fait Leïla et le Seigneur des Amenites. Oui, tout est génial dans ce qu'elle fait. Et c'est complètement fou comme dessin. Là, je trouve par contre qu'elle change un peu. Ça fait moins estampe que sur Leïla et récemment Le Conte du Pêcheur, par exemple. Ça fait un peu plus moderne. Et c'est toujours très beau. C'est toujours un peu sombre et brun, mais...
Il y a plus de couleurs, déjà.
Ouais, j'ai trouvé aussi. Mais c'est toujours aussi beau. Et là, l'histoire, c'est donc l'histoire de Pierre qui se rend compte que son camion qu'il vient de s'être offert a disparu. Et il va parcourir la forêt pour le retrouver. Et la forêt, la nuit, il se rend compte qu'il y a beaucoup de populations, d'animaux. Et donc, on va ouvrir plein de flaps dans le livre. Et ça découvre des petites tanières. Et on va partir à la rencontre des animaux nocturnes. Et c'est très chouette. C'est une belle histoire de rencontre avec la nature, les animaux. Et puis, magnifiquement dessiné, quoi. Moi, je suis trop fan.
On rappelle le titre et l'éditeur, peut-être.
C'est Pierre et la forêt chez Glénat. Du coup.
Merci Méline. Véro, vous avez aussi votre Julien Baird.
C'est le mien, celui-là, le mien de Julien Baird. Donc j'ai vu Un chien tout nu de Julien Baird et Julien Roux, sur lequel j'ai enquêté aussi.
Les Juliens. Les Juliens.
C'est les Juliens. Juliens. Ben oui, bref. 24 poèmes. Là, il nous propose 24 poèmes. Je vous propose le premier, ça s'appelle Vu. Je marchais tranquillement vers le métro Simplon. C'était l'heure du goûter. J'allais chercher du thon. Quand soudain devant moi, se promenant dans la rue, c'était vraiment gênant. J'ai vu un chien tout nu. Je continue. Routine. Le samedi, j'achète des sardines. Le dimanche, non. Le lundi, je vais au zoo voir ma cousine. Le mardi, je reste chez moi. Le mercredi, cours de chinois. Le jeudi, à 11h, piscine sans les sardines. Le vendredi, je pense à toi. Voilà, je me régale, vraiment je me suis régalée sur ces petits textes, tout petits textes poétiques qui sautillent dans tous les sens, qui ont une vigueur, qui ont une force, je dirais en plus, communicative. Voilà, c'est ça qui, justement, je pense à toi, retombe de temps en temps sur... Ah, c'est pas retombé, mais un petit peu de tendresse. Il y a de tout, il y a plein de petites émotions, ça vous retourne comme des crêpes et tout. On va parler du parmesan, on va parler de la préhistoire, des sports d'hiver. Voilà, quelque part, enfin, moi, je m'en fous de quoi il parle. C'est tellement chouette ce qui est écrit, c'est tellement... revigorant. Enfin, ça fait tellement de bien, tellement de bien. C'est après la lune, justement, c'est un rayon de soleil que j'ai l'impression. Et voilà, avec les dessins de Julien Roux, qui j'ai été voir les œuvres qu'il peint sur les murs. Enfin, comme
il tag. Du street art, en fait.
Oui, street art, voilà, c'est ça. Et j'adore son univers, vraiment, j'adore. Il y a un côté un petit peu surréaliste aussi, très, très abordable, très caricatural parfois. Enfin, des couleurs très chaudes aussi. J'aime beaucoup, voilà.
Un petit ouvrage, on rappelle peut-être l'éditeur que vous
j'ai
avez
vu un chien tout nu, Julien Bert, Julien Roux, 24 poèmes, et j'ai oublié l'éditeur. L'étagère du bas.
Bah oui, quand même.
Bah, l'étagère du bas, voilà. Mettez-le en haut, quand même.
Toujours plus haut.
Oui, c'est ça. Elle m'aide. Voilà.
Ouais. L'étagère. Merci, Laurent. Bah, pour le coup, je donne deux fois la main à Méline. Hein,
voilà. Ah oui, voilà.
Non, avec deux grands noms de la littérature jeunesse pour finir cette petite sélection. Enfin, finir une partie de la sélection, parce qu'après on aura encore quelques albums. Mais voilà, deux grands noms qui font leur petite nouveauté pour Noël.
Et oui. Et oui, et oui. Le nouveau Rebecca d'Outremer, moi je l'ai adoré. Vraiment, c'est un grand coup de cœur. On continue à suivre ce personnage de Jacominus, qu'on adore, et de son ami Polycarpe. Et cette fois, leur histoire est accompagnée d'un CD, donc on peut écouter. C'est un vrai plaisir de juste se poser sur son canapé, de poser le CD dans, dans le petit lecteur cassette, comme quand on était petit.
CD, du coup.
CD, pardon.
Oui. Parce que sinon,
on met le CD dans la machine, et c'est trop un plaisir. C'est Rebecca d'Outremer qui raconte. Qui lit, et c'est trop beau.
C'est une grande lectrice. Hein. C'est, on, ah ouais, on le découvre, en tout cas, là on l'apprend, mais avec cette lecture, effectivement, c'est quelqu'un qui lit très très bien.
Ah ouais, ouais, c'est très chouette. Et puis, c'est une très belle histoire d'amitié. En fait, c'est Jacominus qui se réveille d'une sieste et qui se souvient qu'il veut raconter un souvenir de fou à Polycarpe, et il se réveille et il se souvient pas de ce que c'est, et donc les deux amis cherchent. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir retrouvé comme souvenir. Et à la fin, c'est en fait un tout petit truc, mais c'est tellement significatif d'une grande amitié. C'est vraiment beau. Puis les dessins, toujours. Il y a une scène dans la cuisine là, de la maman de Jacominus, je crois. Il y en a partout. C'est magnifique. Franchement, ouais. Encore une fois, c'est du très beau travail.
Elle est agaçante, hein, Rebecca.
Non, justement. Non, il faut toujours être admiratif.
Ouais.
Et moi, j'aime bien aussi le fait qu'elle revienne à un album simple. C'est-à-dire,
oui.
pas une création d'objets,
oui,
ou une histoire simple. Je trouve que ça lui va bien. Et c'est vraiment un très très bel album, je suis d'accord. Et puis un autre grand nom de la littérature jeunesse.
D'autres grands noms. Oui, parce que moi je suis impatiente d'être à Noël déjà.
Ah bah, oui.
On est début novembre. Mais Olivier Talek nous sert un nouveau personnage. Bah oui, on accepte du coup d'être un peu en avance.
Ben, oui.
Sapi le sapin chez Pastel.
C'est un vrai bonheur.
Après l'écureuil,
c'est Sapi le sapin.
C'est Sapi le sapin.
Beau, sapin
il est très très adorable.
Et vous savez quoi, il nous en avait parlé, parce que vous savez, c'était l'invité d'honneur de Croque les mots marmots, et il nous avait dit, mais là j'ai un nouveau bouquin, alors ce qui va sortir, je suis dessus, ça va être l'histoire d'un sapin qui veut être absolument sapin de Noël.
Le voici.
C'est une super idée.
Surnotable. C'est vachement bien mené, et voilà, c'est l'histoire d'un sapin en fait qui veut absolument devenir sapin de Noël, mais pas de chance, il est né dans un bois où en fait les arbres vont devenir des meubles Ikea, donc en fait lui ça lui plaît pas du tout, donc il se déterre, c'est très très mignon, et tout petit sapin qu'il est, il va devenir sapin de Noël, et à la fin il est triste parce que Noël ça dure qu'une journée, et je trouve que c'est, voilà, pour les nostalgiques de Noël dès le 26 décembre, c'est parfait. Franchement, puis le personnage est trop attachant, très.
Et c'est un beau livre de Noël.
C'est un très beau livre de Noël, du coup.
Ça change un petit peu des Pères Noël et consorts.
C'est ça, c'est vraiment ça, ouais.
Eh ben merci, Méline.
Mais avec grand plaisir.
Véro, nous n'en avons pas fini, maintenant débute. Voilà. Et oui, vous pensiez que c'était déjà le vrac, mais non, pas du tout. C'est maintenant. C'est le vrac de Véro, alors, ou bien Véro en vrac.
Alors c'est parti. C'est parti avec Le Vieil Homme et les Mouettes de Rémy Courjon et Rosane Brécard au seuil. Sur l'immense étendue des grèves qui entourent le Mont-Saint-Michel, quand la mer se retire, cela laisse place à des miroirs mystérieux et changeants de teintes au fil du jour. un petit garçon qui adore arpenter ses grèves est fasciné par Martin l'Enchanteur. Non, j'ai raté. Martin le Chanteur, il s'appelle. Bon, bah, voilà.
C'était presque. Et
bah, c'était
on a raté exprès. Le jeu de mots, quoi.
Voilà. Martin le Chanteur, déjà vieux, maigre et taiseux, qui, tel un joueur de flûte de Hamelin, envoûte les mouettes de la baie et les convie dans son sillage. Il veut... Alors, ce petit garçon qui s'appelle Rémi, c'est marrant, parce que c'est écrit quand même par Rémi Courjon et Rosane Brécard. Je l'ai déjà dit, oui. Dessiné par Rosane Brécard. Et... Donc, ce petit garçon veut vraiment comprendre pourquoi les mouettes suivent ce vieil homme. On va le savoir à la toute fin, le vieil homme ne sera plus là. Mais Rémi va rencontrer une personne qui le connaissait bien. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que j'aime ce coin du monde particulièrement. J'aime m'y trouver, j'y resterai toute ma vie si je pouvais. Et là, eh ben dans ce livre, je peux y retourner quand je veux. C'est vraiment trop chouette, quoi. Donc, merci beaucoup, Rémi. Merci, Rosane, parce que moi, j'ai mon petit coin de Mont-Saint-Michel à moi. C'est trop bien. Voilà. Mon papa, qui ne sait pas dire...
Et c'est publié par Le Seuil.
Pardon, publié par Le Seuil, oui. Mon papa, qui ne sait pas dire je t'aime, de Vincent Guigues et Luciano Lozzano, chez Saltimbanque. Voilà. Une histoire très touchante de ce petit garçon qui a un papa avec qui il fait beaucoup d'activités, qui s'occupe très bien de lui, mais qui lui dit jamais « je t'aime ». Un jour, il va dormir chez son copain, ce petit garçon, et le papa du copain, il dit « je t'aime » juste avant de fermer la porte, il dit « je t'aime » à son fils. Et là, là, le petit garçon va tout faire pour que son papa lui dise « je t'aime », mais vraiment tout mettre en œuvre et tout. Et alors, son papa le remercie, il lui dit plein de choses gentilles, mais jamais « je t'aime », et c'est terrible, quoi. Donc, il finit par inviter son copain aussi à la maison. Et là, son copain lui dit mais c'est incroyable ce qu'il t'aime, ton papa. Voilà, et ça rétablit l'équilibre et tout va bien.
C'est très beau.
C'est très beau. Très, très beau. J'ai encore des choses là, hein. Faut que je tourne ma page, hein. Je suis désolée. Hop, hop. Hazel, la petite sorcière, elle est là. Voilà, on va y arriver. Je fais défiler aussi. Voilà. Parfois, on se sent bien dans ce livre, comme on se sent bien parfois dans la forêt, immergé dans la nature, grouillante de vie, de couleurs, de lumière dans la nuit. On va pas, vous savez qu'on est, il fait sombre dehors, et il y a toujours des lumières, et on va se réfugier près de cette lumière, dans une petite cabane, dans une petite grotte, dans une souche d'arbres, ce qui se passe avec Hazel. Donc on va passer une année avec Hazel, en recueillant une boule d'oiseau au printemps, on fait la fête et on ressent mille et une sensations sur la rivière en été, on se fait peur en pénétrant dans une souche hantée en automne, alors que ça va devenir un havre de chaleur. Et voici l'hiver, avec la nature glacée et superbe, et encore des lieux lumineux et chaleureux où se réfugier et vivre. Vraiment, c'est magnifique. Phoebe Wahl, W-A-H-L, Hazel la petite sorcière, une année dans la forêt, et nous sommes chez les éléphants, non ?
Si, aux éditions des éléphants.
Chez les éléphants, voilà.
Merci. Là, encore un petit.
Un vrai coup de cœur, parce qu'en plus, je rouvre un tout petit peu. Mais c'est pendant ce temps. Et pendant ce temps, pèsent les bisons. Michael Elfati aux éditions courtes et longues. C'est le rêve d'une enfant de la nuit des temps où les bisons venaient paître dans les grandes plaines. Et ce rêve, il est raconté dans ce grand livre aux couleurs éblouissantes et chaudes. C'est une épopée dans le. C'est une épopée où on va rencontrer le grand bison aux yeux de charbon incandescent, et c'est le héros protecteur. Oui, je me suis trompée sur un mot. Et cet enfant de la nuit des temps se met à dessiner son rêve sur le mur de la grotte, et nous voici à caresser le papier, parce que c'est vrai, on a l'impression de caresser un mur où on va pouvoir dessiner dessus. Regardez-moi ces couleurs, c'est dingue, c'est complètement dingue. Et il y a vraiment cette idée d'art. Rupestre, ça qu'on dit.
Rupestre. Ouais.
Voilà. Mais on a cette envie d'enfant de vraiment mettre ses mains dessus.
Il y a de la matière
non, ben moi, je ne sais pas ce que c'est toucher, comme matière.
Ah oui, non.
C'est très très léger, mais c'est pas de la matière.
Je pensais pas que c'était.
On a l'impression un peu buvard.
Alors pour vous décrire, parce que c'est un peu difficile à la radio, mais c'est au toucher, les pages, il y a une espèce effectivement de petite rugosité quand on touche, qui fait un peu buvard effectivement. Je pense qu'il y a un grain dans le papier qui fait qu'on a une matière.
Ça donne. Il y a une sensation de profondeur quand on touche. Et ça, c'est absolument incroyable.
Et puis, encore une fois, il y a des couleurs qui sont...
Je n'ai pas le temps là, mais je vous passe le texte. Lisez le texte, il est magnifique. Il est magnifique.
Et alors, ce qui est fou, c'est que là, c'est Michael Elfati, mais on retrouve, je trouve, une sensibilité qu'a aussi Isabelle Simler, qui est chez le même éditeur.
Oui.
dans les oui, petites pattes de couleurs et tout ça.
C'est, ah, oui, tout à fait.
Bon, donc, il faut souligner le travail de Courtes et Longues aussi d'impression, parce qu'ils font vraiment un très beau travail sur l'objet.
Sur le livre, oui, tout à fait.
Et votre dernier coup de cœur du vrac?
Panique à Tétineville, oh, on se marre bien. Une histoire de Chris Adam Fazel, et c'est illustré par Aki. On est chez Pantera, ça fait plusieurs fois que j'amène des livres de chez Pantera.
Oui, c'est une petite, c'est une nouvelle maison d'édition, mais qui est arrivée avec un beau catalogue.
Oui,
il y a eu du Charles Dutertre, donc là, Aki. Enfin, c'est aussi des gens qui ont déjà publié pas mal de titres, hein. C'est pas des jeunes auteurs
qui débutent. Non, tout à fait. Et là, c'est avec des illustrations très très drôle, qui géométrique, enfin un petit peu BD et tout. Donc ils ont fait Panique au village, ils ont fait Panique au village des crottes de nez, je crois qu'on en avait parlé ou plus ou moins. C'était au Fourmis Rouge.
Mais c'est pas Aki qui dessinait ça.
D'accord, ça doit être ça, pas Aki. C'est pas Aki. C'est pas Aki du tout. Hein. Là, il va falloir bosser. Hein. Parce que c'est pas acquis. Enfin bon, voilà, tu feras ce que tu voudras. Les Tétinois ne comptent plus que sur une petite réserve de caoutchouc gardée jalousement par leur mère. Une nuit, un orage éclate et dans l'ombre, quelque chose ou quelqu'un, chaussé de bottes, va piquer tout le caoutchouc. Donc cette ville, Tétineville, ils ont tous des tétines. C'est obligatoire hein, d'avoir des tétines. Ça pose un problème de diction, je ne l'ai pas fait à tout. Voilà.
Mais... J'aimerais que le livre soit entièrement comme ça, en fait. C'est super. On pourrait faire un méchant.
Mais pourquoi font-ils vos films et fonds, fait aller trop loin, je vois. Donc il y a la possibilité de faire quand même des petits dialogues sympathiques. Quoi. Et puis il y a toute une énigme. Il faut trouver qui leur pique le caoutchouc. Hein. C'est absolument dramatique parce que la tétine, c'est quand même l'essence même, leur religion, quoi. On va dire ça comme ça, et peut-être qu'ils vont pouvoir évoluer dans leur religion et peut-être se passer de la tétine. Oh, voilà. Bon, excusez-moi pour les bafouillages et les jeux de mots.
Ça va être la tétine, il faudra l'enlever
Ouais, la prochaine fois j'enlève la tétine.
Allez, on continue dans les coups de cœur, et même c'est le générique coup de cœur.
Oh yeah.
On avait eu une multitude de coups de cœur, évidemment, vous l'avez entendu depuis le début de cette émission. Mais là, j'avais envie de lire un petit conte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas lu un petit conte comme ça de chez Didier Jeunesse, écrit par Gilles Bizouerne et illustré par Roland Garrigue. Eh bien, ce conte, c'est le dernier qui est paru dans cette collection magnifique qui s'appelle « À petit peton » chez Didier Jeunesse. Et ce conte s'appelle « Singe et le monstre ». Au milieu d'une forêt, des animaux vivaient dans une clairière. Ils s'amusaient, ils se chamaillaient. Une vraie bande de copains. Tout allait bien. Mais un soir, les animaux entendent un grognement épouvantable. Ils voient un horrible monstre surgir de la forêt, plus grand que grand, plus fort que fort. Terrifiés, tous les animaux se blottissent les uns contre les autres. Devant eux, le monstre se redresse, ouvre son immense gueule. Le monstre engloutit les étoiles, la lune et même le soleil. Le ventre plein, il disparaît dans la forêt. Plus d'étoiles, plus de lune, plus de soleil. C'est la catastrophe. Le monde entier est plongé dans l'obscurité. Les animaux cherchent du bois et réussissent à lancer un feu. Ouf, un peu de lumière et un peu de chaleur. Autour du feu, les animaux se rassemblent pour tenir un grand conseil. Qui osera reprendre au monstre les étoiles, la lune et le soleil? Lion répond qu'il est trop vieux. Aigle, qu'il est blessé. Poule dit qu'elle a trop mal aux dents. En vérité, personne ne veut y aller. Soudain, Tortue s'avance. C'est moi qui vais y aller. Ma carapace est dure comme la pierre, elle me protégera. Je vais reprendre au monstre ce qu'il nous a volé. Vive Tortue! Vive Tortue la courageuse! Crient tous les animaux. Tortue se met en route vers la forêt. Poum, pi, poum, pa. Elle marche à petits pas. Poum, pi, poum, pa. Elle marche qu'à un quart. Au plus profond de la forêt,
tortue entend une terrible voix. C'est le monstre. « Je suis plus grand que grand, je suis plus fort que fort. Si tu t'approches encore, je te dévore !» Tortue a peur. Elle se carapate à toute vitesse. Poum pipa, poum pipa, poum pipa. La forêt, la clairière, et bim, elle finit sa course contre un rocher, tête la première. Assommée, tortue la courageuse. Autour du feu, les animaux tiennent un nouveau conseil. Maintenant, qui osera reprendre au monstre les étoiles, la lune et le soleil ? Moustique dit qu'il fait trop de bruit. Oh, girafe a un torticolis. Et lièvre a envie de faire pipi. Soudain, antilope frappe le sol avec ses sabots. C'est moi qui vais y aller. Mes pattes sont rapides comme l'éclair et je sais arrêter ma course. Vous verrez, je vais reprendre au monstre qu'il nous a volé. Vive antilope ! Vive antilope la courageuse ! Crient tous les animaux. Antilope file vers la forêt. Tic-tic, tic-tan ! Elle court droit devant. Tic-tic, tic-tan ! Elle court plus vite que le vent. Au plus profond de la forêt, antilope entend la terrible voix du monstre. Je suis plus grand que grand, je suis plus fort que fort. Si tu t'approches encore, je te dévore. Antilope s'affole, elle s'enfuit à toutes jambes. À bout de force, son cœur s'arrête net. Boum, elle s'écroule à terre. Reine morte, antilope la courageuse. Au village, les animaux ne voient pas revenir antilope. Ils ne savent plus quoi faire. Soudain, singe prend la parole. Les amis, c'est moi qui vais y aller. Je vais reprendre au monstre ce qu'il nous a volé. Tous les animaux éclatent de rire. Et singe, t'es peut-être malin, mais ça ne suffira pas. On verra bien. Singe s'élance vers la forêt, de branche en branche, d'arbre en arbre. Youpli, youpla. Il se balance avec ses longs bras. Youpli, youpla. Il se balance par ici, par là. Au plus profond de la forêt, singe entend la terrible voix. Je suis plus grand que grand, je suis plus fort que fort, si tu t'approches encore, je te dévore! Singe s'installe sur une branche et s'amuse à imiter la terrible voix. Je suis plus grand que grand, je suis plus fort que fort, si tu t'approches encore, je te dévore! Le monstre gronde. Qui ose se moquer de moi? Singe répète. Qui ose se moquer de moi? Furieux, le monstre attrape l'arbre et le secoue dans tous les sens. Singe perd l'équilibre et tombe dans la gueule grande ouverte du monstre. Oh ! Singe glisse, glisse, jusqu'au fond du ventre du monstre. On dirait une immense caverne. Les étoiles scintillent, la lune brille, le soleil rayonne. Waouh ! Ils sont tous là ! Fou de joie, singe fait des roulades avant, des roulades arrière. Mais comment sortir du ventre ? Singe cherche ici, cherche là. Il trouve un tunnel, et au bout du tunnel, une sortie. Oh ! Singe ressort par les fesses du monstre. Oh, les étoiles font pareil. Elle file vers le ciel. Aussitôt, le monstre se jette sur Singe et l'avale encore une fois. Singe ressort fissa par ses fesses, et le soleil et la lune aussi. Le monde entier est de nouveau éclairé. Le monstre honteux s'enfuit dans la forêt et disparaît à tout jamais. Singe revient au village, le sourire aux lèvres. Alors les amis, qui c'est le plus fort ? Vous avez vu ? La lumière est revenue, le monstre ne nous embêtera plus. Pendant 3 jours et 3 nuits, c'est la fête. Les animaux ont dansé, sauté, chanté à tue-tête, une vraie bande de copains. Vive Singe, le roi des malins! Et voilà, c'était Singe et le monstre de Gilles Bisouerne, illustré par Roland Garry, que vous allez voir, c'est magnifique, et c'est publié chez Didier Jeunesse. Et nous, comme d'habitude, pour nous en remettre, on va écouter un petit peu de musique, on va écouter La cabane de Fox.
Elle est faite de rien et de mes demains et de lendemain qui chante la cabane. Elle touche le ciel et à l'essentiel, le chant des oiseaux l'envoûte, la cabane. Le soleil soleil très tôt frappe à ses carreaux. Il y fait vite très chaud, une savane. C'est une douce chaleur, elle emplit nos cœurs. Elle sait allonger les heures, la cabane. Un refuge, un abri, un rempart. Au déluge, à l'ennui, au cafard. Une bicoque de briques et de brocs.
C'était donc Fox avec le morceau La Cabane. Fox, c'est un artiste qu'on voit depuis un petit bout de temps maintenant en Mayenne. Je ne sais plus, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'il fait des lives. Et pendant très longtemps, en fait, il était tout seul avec son petit ukulélé. Son ukulélé. Et il faisait des chansons assez intimistes, tout ça, avec clairement une influence avouée qui est celle de Mathieu Bogart. Et là, pour son nouveau projet, en fait, il s'est associé avec deux musiciens. Et donc, c'est devenu un trio. Et ça se voit dans ses compos. C'est beaucoup plus riche, en tout cas musicalement, que cela ne l'était. Et on est dans des univers qui nous font penser à M, à Mathieu Bogart, à tous ces artistes qu'on aime bien. Donc, c'est vraiment à suivre pour ce nouvel album à sortir de Fox. Et là, on a écouté La Cabane. Allez, on va parler un petit peu de roman maintenant, et puis c'est Véro qui commence avec une collection, la collection Je lis tout haut.
Donc assez récente, hein, de chez Nathan.
Non, c'est chez Milan par contre.
Chez Milan.
Si je peux me permettre ce petit détail.
Non, mais je vais bientôt aller me coucher là, c'est bien.
Il est que 19h quand même.
Oui, hein. Mais quand même, il faut. Donc chez Milan, et qui est... Bon, moi j'ai des souvenirs très anciens, mais de collection première lecture chez Milan, qui s'appelait Première étoile.
Oui, il y avait les Milan Benjamin. C'est toujours chez Nathan, ça, les étoiles filantes en fait.
Les étoiles filantes, c'est toujours chez Nathan.
Bref, chez Milan, c'était Milan Benjamin.
Milan
en fait.
Avait des propositions première lecture qui étaient avec des histoires vraiment très sympas, très chouettes et tout. Et là, c'est une collection où l'enfant peut se mettre dans une position de conteur aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc d'acteur pour se mettre dans la peau de chaque personnage. Il y a des dialogues avec les petits petites icônes de chaque protagoniste en face de chaque dialogue, de chaque
phrase. Il peut y avoir une petite mise en scène théâtrale des enfants.
Complètement, ça c'est assez génial.
Et puis, une vraie particularité dans l'image, en fait, c'est que je ne sais pas.
Alors, y a
en fait,
premier,
on peut déplier, voilà. Et quand vous dépliez l'image, en gros, il y a un petit rabat.
Il y a, un premier petit texte. Loupio ne comprend pas pourquoi il fait si peur aux autres. Là, il s'agit du... attention, voilà Loupio qui... Le problème, c'est qu'il ne connaît qu'une seule lettre. Il a des grandes dents, puis ça fait... c'est « Ah !» Et quand il fait ça, ça fait peur aux autres. Donc, il essaie de leur expliquer. Attendez, je ne suis pas un méchant loup du tout, mais personne ne l'écoute. Donc, on va progressivement, avec un triptyque, découvrir deux pages de texte et une illustration.
Mais plus que ça, parce que quand vous tenez le livre droit et que vous faites voir l'image, c'est-à-dire que le lecteur, celui à qui vous lisez, voit
l'image, voilà, donc, comme un kamishibaya.
Il reçoit exactement comme le kamishibaya.
Comme le principe du
kamishibaya. Il a l'image et c'est l'enfant qui va lire le texte.
Donc on peut vraiment, ça incite complètement à mettre en scène les histoires et que l'enfant se mette aussi en scène. C'est pour ça aussi qu'on va trouver des textes très simples, pas simplistes du tout, hein, mais très simples, très travaillés à ce niveau-là, même pour des premières lectures. Et c'est vraiment une réussite. Alors moi j'ai trois titres là, mais depuis il doit y en avoir.
Il n'y en a pas eu tant que ça qui sont sortis. Je ne sais plus combien il y en a en tout.
Siècle dans la salle de bain, l'ogre qui avait une toute petite voix. Moi, j'ai un petit faible pour celui-là parce qu'il a une toute petite voix. Il y a aussi un jeu sur la typographie. Donc, quand l'ogre parle, les lettres sont beaucoup plus fines et beaucoup plus petites, quoi.
Comme dans les albums de chez Didier Jeunesse.
Voilà,
en fait.
Exactement.
C'est vraiment le travail de
compteur. Il y a vraiment un super boulot à ce niveau-là et de théâtralisation de l'histoire aussi. Donc, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est un vrai bonheur, même pour nous, à lire, je dirais. Et je tenais à la mettre un peu en valeur parce que dans les premières lectures, enfin on en a et on en a des très bien, mais là c'est une petite nouvelle collection et
ouais, puis c'est la fierté,
franchement n'hésitez
pas. C'est la fierté
pas.
Pour les enfants effectivement de lire à voix haute,
voilà.
Tout seul devant les autres en fait, de
même
montrer qu'ils savent.
Même avec le parent aussi, ça, il peut y avoir des jeux de travail d'histoire avec le parent. Quoi.
Tout à fait, merci.
Voilà.
Donc, la collection s'appelle Je lis tout haut, on est bien chez Milan. Et la plupart, les premiers titres, c'est il y en a
alors,
beaucoup qui parlent.
Alors l'ogre qui avait une toute petite voix. Attention, voilà Loupio. Quel siècle dans la salle de bain. Et c'est Mime et Benoît Bajon qui écrivent, j'imagine. Et Prisca Le Tendé aux illustrations.
D'accord, merci Véro. Méline, vous avez un petit coup de cœur. Alors qu'est entre l'album et la première lecture, c'est plutôt un album à la base, mais c'est vrai que le texte est assez long pour qu'on puisse le mettre aussi en première lecture.
Oui, c'est.
Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop en jeunesse, qu'on connaît plus en adulte.
Avec Bérangère Cournu, chez le Tripode, donc. La salamandre et le bouchon de champagne, un très très beau conte. C'est l'histoire de la reine des animaux, une salamandre douce et pleine de bonté, et d'une princesse humaine. Profondément jalouse en fait de la gentillesse de cette salamandre. Et voilà, c'est l'histoire d'un conflit en fait entre animaux et humains qui va nous délivrer un très beau message sur le règne animal, l'écologie, l'amour aussi. Le format est aussi, enfin, nous rappelle aussi la fable. Il y a vraiment une morale, puis ce côté animalier qui est là, ça nous rappelle pas beaucoup ça. Et c'est très beau, les textes sont chouettes, tous les dialogues sont en très gros sur les pages, et après le texte est en plus petit, puis on a des grosses doubles pages d'aplats de couleurs, comme ça. C'est très chouette. L'illustratrice, c'est Astrid Jourdain, qui n'a pas fait de livre, mais elle a fait toutes les couvertures de Bérangère Cournu au Tripode. Et là, je trouve que c'est un vrai régal d'avoir une suite en fait, d'œuvres... comme ça, dans un contexte d'histoire et de fiction, c'est très très chouette. Et voilà, après son travail, elle a tout un portfolio sur le net qui est incroyable à voir. Moi, je trouve son travail vraiment chouette. Et puis l'histoire, quoi, ce conte, c'est dense, hein, mais ça marche très très bien. Ouais, c'est très beau. Il y a une très belle.
Ça fait partie de ces livres qui peuvent être lus aux enfants, mais que les enfants peuvent lire aussi quand ils sont un petit peu plus âgés.
Oui, c'est ça.
Donc on rappelle le titre.
C'est La salamandre et le bouchon de champagne.
Donc de Bérangère Cournu et Astrid Jourdain.
Au Tripode.
Merci Méline.
Mais avec grand plaisir.
Allez, on va bientôt, le temps passe, on arrive non pas très très longtemps à la fin de l'émission, donc on va passer au grand maintenant, avec les ados. Vous avez un petit coup de cœur, Véro, je crois.
Un gros
coup de cœur. Eh bien, allons-y pour le gros coup de cœur.
Une expérience de lecture aussi qui m'est jamais arrivée. C'est-à-dire que je me suis mis à lire, je suis très lente, comme je disais toujours, je lis comme un
escargot. Ah bah enfin, vous commencez.
Je me suis mis à lire comme on court, comme on vole, comme on nage très vite, qu'on passe de branche en branche comme les singes. Ça s'appelle « La porte du non-retour » de Kwame Alexander, qui est un poète américain. On est chez Albin Michel dans la collection Lit. Et c'est un vrai bonheur de lecture. C'est la première fois que j'ai l'impression donc de voler en lisant, de franchir des cours d'eau avec allégresse, même si le sujet est très grave et très lourd. Des phrases légères, de tout petits paragraphes comme des haïkus. Alors, évidemment, il y a plus que trois phrases, mais on est vraiment dans la légèreté du texte. C'est incroyable. Enfin, moi, j'étais embarquée. C'est une trilogie, donc j'attends en trépignant le deuxième aussi. On est en 1860, dans le royaume Ashanti. Et en plus, j'ai été chercher plein de choses sur Wikipédia parce que je voulais connaître, je voulais savoir. Alors, l'Afrique m'a souvent intéressée, comme beaucoup de gens, mais à ce point-là, j'ai voulu creuser parce qu'il dit très peu de choses, lui, par contre. Donc, on a envie d'aller creuser. Donc, on est en Afrique de l'Ouest, ce qui représente le Ghana actuel. Kofi, c'est un jeune garçon de 11 ans qui attend avec impatience le rituel qu'il fera passer à l'état adulte. Et il subit l'apprentissage de la langue du colonisateur qui, pour cette fois, est anglais. Donc les punitions, c'est réciter du Shakespeare par cœur, enfin des choses comme ça. Et il va essayer de respecter aussi sa culture ancestrale et en continuant à parler la langue Twi. Alors, je découvre la langue Twi aussi. On le suit dans ses baignades dans la rivière Ofin qu'il aime tant, dans ses premiers émois pour la belle Ama. On revêt le kente, alors j'apprends plein de choses, on mange des ignames, on grignote des noix de cola, on s'immerge dans l'Afrique immémoriale qui nous raconte son histoire aussi. L'histoire aussi d'un roi du haut, d'un roi du bas, des peuples coupés. De temps en temps, il y a un petit peu de prose qui raconte l'histoire des Ashanti et qui permet de comprendre les guerres, les différences, ce qui a séparé aussi les peuples, qui n'a rien à voir avec nous, nos avidités occidentales. Enfin bon. Et l'horreur, évidemment, ça va être... il est persuadé de passer son rituel d'adulte. Et ce n'est pas un rituel d'adulte, c'est ce qu'ils appellent les merveilleux, ils s'appellent ça les merveilleux, et c'est les Blancs qui sont venus, par le biais de la tribu d'en bas, vont l'embarquer sur un navire vers l'ouest. Voilà. Donc j'attends le reste. Je dis, parce que comme je suis très lente, moi, il y a quasiment 500 pages, je l'ai lu en 2 jours. Voilà.
Je l'ai mangé. Très bien.
Ouais, c'est ça.
Ça donne envie en tout cas. Eh bien, merci Véro pour ce coup de cœur. Ça donne très très envie, vitement la suite que vous nous raconterez, évidemment. Deuxième roman coup de cœur également. Et là aussi, on est chez un auteur d'origine américaine, mais qui a d'autres origines qui nous permettent de rentrer. Là, on est plutôt au Canada d'ailleurs. C'est un coup de cœur que nous partageons, Méline. Ce livre s'appelle « Tant que fleuriront les citronniers ». Il est écrit par Zulfa Katou, c'est son premier livre. Et il est publié chez Nathan. Et je te laisse le présenter rapidement. Et puis,
si tu veux. Moi, c'est vraiment ma révélation en roman ado. Vraiment, je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça à cause d'un livre. J'annonce la couleur, voilà, c'est comme ça.
Si vous voulez pleurer, prenez ce livre.
Donc, on est en Syrie, c'est la guerre, et on suit la vie de Salama, qui est une étudiante en pharmacie, dans sa vie d'avant, en fait, et qui a tout perdu, et qui, malgré elle, est obligée de devenir chirurgienne dans l'hôpital de sa ville. Et du coup, elle voit des scènes absolument atroces. D'ailleurs, les scènes à l'hôpital sont d'une précision chirurgicale sur la violence.
C'est clair.
C'est très dur. Et d'un autre côté, pardon, ça c'est la partie très belle du livre, c'est qu'il y a une très jolie histoire d'amitié avec sa belle-sœur qui l'attend à la maison toute la journée. Il y a toujours cette inquiétude hyper pesante qui est là. Et il y a évidemment l'histoire d'amour avec Kenan qui, lui, risque tout aussi et prend des vidéos et des photos de l'armée qui attaque, en fait, pour les mettre à disposition du monde.
Pour informer le monde, en fait.
Tout à fait. Et ça nous met dans quand même un petit cocon, cette histoire d'amour. Et, et je trouve que c'est d'une puissance inouïe à la fois la violence et la douceur dans laquelle on est, et c'est très très beau. Moi, j'ai...
Ah, c'est un roman, alors je reprends la main, mais c'est un roman effectivement ultra poignant, où on passe, comme tu l'as dit, de scènes mais terribles dans l'hôpital. C'est pour ça que c'est vraiment un roman young adulte, hein. C'est vraiment un roman pour les grands, parce que ce qui est décrit, elle efface pas du tout la réalité, quoi. Et puis à côté de ça, c'est un livre où aussi il y a l'espoir, et l'espoir c'est l'amour, et cet espoir en fait il est continu dans le livre, on a envie d'y croire avec elle, on a envie de se battre avec elle. Il y a aussi cette ambiguïté que le personnage a de, est-ce que si je pars, et donc je sauve ma vie et éventuellement celle de ma belle-sœur et de mes proches, et ben est-ce que j'abandonne mon pays? Est-ce que c'est ça fuir? Est-ce que c'est abandonner? Ou c'est mieux témoigner ailleurs? Il y a tous ces débats-là qui sont mis en scène, donc c'est aussi un livre qui fait peur, voilà, qui fait réfléchir sur ce qu'est la guerre et les situations de guerre qui sont évidemment complètement incroyables et terribles. Les discussions d'ailleurs qu'elle a avec son amoureux sont assez belles parce qu'ils ne sont pas sur le même point de vue, en tout cas. Au début, et il y a vraiment cette discussion de qu'est-ce que voilà, on choisit jamais d'être migrant, quoi, par exemple. Ça, c'est une phrase qu'elle dit à un moment donné. Il y a plein de phrases comme ça que moi j'avais notées qui étaient des phrases chocs qui sont trop trop belles. Et puis en même temps, il y a cet amour qui est là. Et cet amour, moi, je trouve qu'il est important aussi à montrer en ce moment, puisque c'est un amour qui est complètement dans la tradition musulmane. C'est-à-dire qu'elle arrive à décrire tout le côté traditionnel de la religion musulmane avec beaucoup de tendresse, de justesse. Et je l'ai interviewée pour la rentrée Nathan autour de ce livre-là. Et elle me racontait qu'elle avait aussi à cœur de faire une... Alors, elle appelle ça... Alors pour nous, ça nous fait un peu bizarre, mais elle-même donne ce nom, une romance halal. C'est-à-dire une romance dans laquelle les codes de la tradition musulmane sont respectés et sont là et sont bienveillants. Et cette bienveillance par rapport à cette tradition et cette religion, en fait, ça fait du bien de le lire. C'est-à-dire que, d'autant plus dans une situation qu'on a actuellement avec le conflit israélo-palestinien, c'est tellement rare d'avoir cet écho, cette voix.
Ça permet de comprendre aussi.
Oui, mais même, par exemple, quand je l'interrogeais, elle dit, mais en quoi, par exemple, les codes de l'époque de Jane Austen, de l'époque victorienne, et c'était une époque qui est complètement codifiée dans les relations amoureuses, en quoi c'est différent, enfin, voilà. Donc c'est très intéressant son discours par rapport à ça, et ça fait vraiment beaucoup de bien de lire ce texte là vous allez pleurer tout votre corps. C'est clair, hein. c'est vraiment très très émouvant, mais c'est très très beau, donc voilà, double coup de cœur pour Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Khatou, publié chez Nathan.
C'est pas dans les prix d'avenir.
Non, c'est dans l'étrangère, vous savez que je prends que des...
Oui, c'est vrai, non, j'ai rêvé, mais je l'ai vu dans une sélection, je ne sais plus laquelle.
Oh, c'est possible, et puis c'est un livre qui fait un peu son parcours là sur TikTok en ce moment.
Les pépites.
C'est possible, ça.
En tout cas,
on est évidemment, on est sûr que ça sera un livre qui aura beaucoup de succès. Eh bien, l'heure tourne, il nous reste un peu de BD. Méline, vous vouliez présenter un manga et une BD?
Oui.
Allez, on y va.
On y va. Eh bien, je commence par le manga. Je me suis dit que c'est une bonne idée.
Oui, tout à fait, une très très bonne idée.
C'est Chat des rues. Alors, il y a deux tomes pour le moment. Je pense qu'il y en aura plus. Ouais. C'est chez Doki Doki et l'auteur, c'est Yuri Sonada. Sonoda. C'est un manga tout doux sur l'amitié entre deux chats. C'est un peu particulier, mais ça marche très bien. D'abord, il y a Maruru, un chat domestiqué qui se retrouve à la rue après s'être éloigné de chez lui. Et il y a Ashi, un terrible chat qui protège à la force de ses coussinets son territoire et ses amis. Tout à fait, c'est lui Véronique, tout à fait. Et évidemment, donc Maruru pénètre ce territoire et les deux compères sont loin de devenir amis. Mais Maruru sauve la vie de Ashi tout à fait par hasard. Et donc... il y a une très belle histoire d'amitié qui commence. Au début, c'est un peu « je suis redevable parce que tu m'as sauvé la vie ». Puis au final, c'est très fort ce qui va se faire entre eux. Ce sont deux chats très différents et qui pourtant forment un duo d'enfer. Et on rencontre en fait plein de chats dans la rue. Et c'est une très belle histoire, voilà, d'entraide, d'amitié en fait. C'est vraiment ça le thème principal.
C'est pas le papillon de...
Oui.
Je sais pas comment on dit, la chatorité.
La chatorité. J'aime bien ce terme.
On a qu'à le dire comme ça.
Voilà, on peut le dire comme ça. Et puis pour commencer dans le manga, je trouve ça bien.
Ouais, c'est très bien. Ouais. Puis ça peut être autre chose que Shi ou qui est très bien, mais
oui,
ça permet d'avoir
c'est
d'autres
des
histoires
alternatives.
De chats.
Tout à fait.
Là, on va parler de sororité avec un très, très, oui. Une très belle adaptation en bande dessinée.
Tout à fait. Je lui donne la palme de l'adaptation pour la fin de l'année.
On devrait faire ça, on devrait donner des
palmes. Comme oui. Ça, à tout, ce qu'on aime. Magali Lehuche s'est attaquée aux petites reines de Clémentine Beauvais. Elle l'a fait parfaitement. C'est génial. Petit rappel, les petites reines de Clémentine Beauvais, c'est trois collégiennes qui se retrouvent à être élues boudin dans leur collège. Et,
boudin
c'est...
d'or, boudin d'argent, boudin
oui,
de bronze.
Il y a tout un podium. C'est, un podium. C'est toute une histoire.
C'est le gars, parce qu'évidemment, c'est un gars qui a inventé ça.
Ben, oui, c'est... Preuve sinon, d'une c'est pas grande drôle. Culture. Et donc, ces trois collégiennes, voilà, ont toutes les trois des petites raisons de se venger. Et pour se venger, elles vont décider de monter sur Paris à vélo en vendant du boudin. C'est ironique et c'est très drôle. Et elles ont surtout des bonnes raisons de monter sur Paris. Ça, on le découvre au fil du roman, au fil de la BD. Et donc là, Magali Lehuche, pour moi, elle complète tout ce que j'attendais d'une adaptation des Petites Reines. Franchement, elle recrée hyper bien l'ambiance, les personnages. Moi, j'ai même ressenti des choses que j'avais ressenties à la lecture du roman, alors que pourtant, ça date. Mais elle le fait trop, trop bien, quoi.
Mais elle est super forte, hein, parce qu'elle avait réussi à faire verte de Marie Desplechin rendre vivante cette petite sorcière. Mais voilà, moi, j'avais trouvé qu'elle était hyper juste. Et elle est encore hyper juste avec les Petites Reines.
Ouais, elle est trop bien.
Bon, elle est hyper forte, hein. Donc Clémentine Beauvais était hyper forte, Magali Lehuche est hyper forte. Donc c'était Les Petites Reines de Magali Lehuche, adapté du roman de Clémentine Beauvais, c'est publié chez Sarbacane évidemment. Et ben merci beaucoup Méline pour tous ces beaux conseils. Merci Véro en tout cas pour tous ces beaux coups de cœur. On espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à cette émission. On se quitte comme d'habitude en musique. Cette fois-ci, c'est La Croqueuse, un groupe mayennais qui revient avec un deuxième album. C'est un quartet qui est très inspiré de la musique traditionnelle française. Et là, on se quitte avec Silencieuse Lumière, un nouveau titre de leur album. Voilà, on espère que vous lirez beaucoup. On se retrouve évidemment pour l'émission de décembre très prochainement. En attendant, plein de belles lectures et puis plein de belles choses. À bientôt.
Au revoir.
Aux oiseaux de la nuit, survivants de l'hiver, qui avancent sans bruit sous un voile de poussière. Ils ont fui le rivage, traversé les déserts, avec unique bagage, les morsures de la guerre. Silencieuse lumière dans nos yeux, te souviens-tu? Silencieuse lumière dans leurs yeux, reviendras-tu? Aux oiseaux de l'exil entassés par milliers, sur des bateaux d'argile, des cercueils en papier, sur une mer trop lourde s'écroulant sous leurs pieds, plongeant dans les eaux sourdes des âmes décimées. Silencieuse lumière dans nos yeux, te souviens-tu? Silencieuse lumière dans leurs yeux, reviendras-tu? Ailes enchaînées tracent sur la glaise, sous l'ol inépuisé, d'étroites parenthèses à leur chant, à leur prière, sur la plaine endormie, à leurs rêves, à leurs chimères, enroulées dans l'oubli. Silencieuse lumière dans nos yeux, te souviens-tu? Silencieuse lumière dans leurs yeux, reviendras-tu? Aux oiseaux naufragés sur des chemins obscurs où le soleil peine à panser leurs blessures. Ils attendent que le vent dissipe le brouillard, écrivent le printemps, printemps d'un fol espoir. Ils attendent que le vent dissipe le brouillard, mélangent les pigments aux couleurs de l'histoire. Silencieuse lumière dans nos yeux, te souviens-tu?
Te souviens-tu?
Silencieuse lumière dans leurs yeux, reviendras-tu?
Reviendras-tu?
Silencieuse lumière dans nos yeux, te souviens-tu?
Te souviens-tu?
Silencieuse lumière dans leurs yeux,